Bonjour et bienvenue dans l'émission du MacGuffin. Aujourd'hui, on est en petit comité, étant donné qu'on n'est que trois, et l'émission sera un peu plus courte que d'habitude, étant donné qu'on est un peu en retard sur notre planning. Aujourd'hui, on va traiter de l'âge adulte dans notre cycle de la vie, et on va parler des films suivants. American Pie 3, aussi nommé American Wedding, de Joss Dillon, sorti en 2003. Tanguy, de Étienne Châtillièze, sorti en 2001. Victoria et la bataille de Solferino, sortis respectivement en 2016 et en 2013, film de Justin Trier. Tony Erdmann, sorti en 2016 de Marraine A2. Et Le sang séché, qui fait figure d'exception, étant donné qu'il est sorti en 1960 et qu'il est réalisé par le réalisateur japonais Kiju Yoshida. Voilà, donc je pense qu'on va commencer par une petite introduction des films. American Pie 3, est-ce que tu peux résumer le scénario, Simon ?
Ouais, bah, c'est assez simple et c'est juste... Enfin, moi, j'ai pas vu l'American Pie 1 et 2, mais en fait, on suit une bande d'adolescents, en fait. Et dans American Pie 3, en fait, il y en a un qui va se marier, c'est James, je crois.
Appelé Jim dans le film,
attention. Et du coup, en fait, l'histoire du film va simplement être le déroulement des préparatifs du mariage, l'apogée et la finalité du film étant le mariage. Est-ce que le mariage va être réussi ou pas ? Et du coup, en fait, ce film qui est quand même assez mauvais, ne l'oublions pas, on l'a choisi surtout parce qu'en fait, ça parle de la thématique du passage à l'âge adulte. En fait, quitter le foyer familial pour arriver dans un nouveau foyer et peut-être potentiellement en créer un. C'est toute l'histoire d'American Pie 3.
Ok, alors je vais présenter vite fait Tanguy. Tanguy, c'est un film d'Étienne Châtillièze qui est assez connu puisqu'il a engendré une sorte de phénomène Tanguy dont on qualifiait les personnes qui restaient à l'âge adulte chez leurs parents. C'est toute l'histoire du film puisque les parents de Tanguy essayent de le dégager de leur maison, ce qui va entraîner moult gags, ma foi, fort rigolo. Ensuite, les films de Justin Trier, qui est une réalisatrice française qui officie pas mal sur des portraits de femmes et des portraits souvent familiaux, un peu à la ramasse. Donc la bataille de Solferino, ça traite de la vie d'une femme entre le reportage qu'elle fait des élections présidentielles et sa vie de couple qui part à volo. Et Victoria, c'est l'histoire d'une avocate dont la vie est un peu minable, où elle doit défendre des personnes qui sont ses amies et qui sont aussi un peu frappées et qui tombe amoureux de son babysitter. Tony Erdmann, du coup, ça, c'est une histoire d'un père qui vient voir sa fille je ne sais plus où.
À Bucarest, il me semble.
Bucarest,
okay. Sa fille qui est allemande, c'est un père-fille, un couple père-fille qui sont allemands. La fille qui travaille dans une entreprise allemande délocalisée à Bucarest. Et du coup, son père qui va rejoindre sa fille pour un peu imposer sa présence pendant un certain temps, on va dire.
Très bien. Et ensuite, le dernier film dont on va traiter, Le sang séché, le film le plus vieux, et aussi peut-être le plus singulier dans ce dont il parle, puisqu'il s'agit de l'histoire d'un homme qui, pour éviter de se faire renvoyer, se menace de se suicider avec un fusil et tire malencontreusement, et devient de fil en aiguille une espèce de héros préfabriqué par la société au final. Et évidemment, ça va partir en vrille. Voilà pour la rapide présentation. On va enchaîner sur la première thématique qui est celle de quitter le foyer, qu'on retrouve dans des films comme Tanguy et dans American Pie 3, visiblement, que je n'ai pas vu donc je ne peux pas le savoir.
Mais que tu as bien raison de ne pas l'avoir vu, mais oui, effectivement, en fait, c'est un film qui utilise cette thématique-là, c'est-à-dire que, comme je l'ai dit un peu précédemment, toute l'histoire va être concentrée sur l'aboutissement social, l'aboutissement de l'adolescence un peu qui est représenté par le mariage. Et du coup, ce qui est assez paradoxal dans ce film-là, c'est que du coup, c'est des jeunes adultes, des gens qui vont bientôt être adultes et qui en fait vivent encore chez leurs parents. En fait. Et du coup, c'est quitter le foyer familial, mais à l'américaine, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas marié, on ne peut pas encore quitter le foyer. Et du coup, c'est un film qui est assez représentatif de ça.
Oui, je vois. D'ailleurs, par rapport à la question du mariage, c'est aussi le cas d'ailleurs dans Tanguy, puisque le personnage principal est chez ses parents et dans une situation qui est finalement celle d'un étudiant. Au final, c'est son excuse pour rester chez sa famille. Et sa famille, à chaque fois, il y a une espèce de renvoi sur les petites copines du héros, qui est que dans un premier temps, la petite copine, on essaie un peu de la faire dégager pour faire jaser le héros, parce que bon, voilà, faut le faire partir, faut le dégoûter de la famille, alors que au fond, elle aurait pu contribuer à faire sortir le personnage de la famille, c'est-à-dire en le casant, en ayant des enfants, etc. Et ensuite, il me semble que à la fin, c'est en se retrouvant dans une famille chinoise avec laquelle il finit par enfin, c'est la famille de sa petite amie, quoi. Et finit par devenir sa vraie famille, celle qui finit par l'accepter et avec laquelle il finit par vivre, ce dont il a toujours rêvé au final, puisque c'est un peu le message un peu étrange du film qui, avec ses allures de comédie, présente des personnages qui sont très caricaturaux et très gênants. Je pense que c'est quand même la donnée la plus gênante de tous ces films au final, c'est que tous les personnages sont un peu stéréotypé, quoi.
Mais de toute façon, cette situation de quitter le foyer familial est à la base un peu stéréotypé, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ces films dont on parle présentent vraiment le passage à l'âge adulte ou l'âge adulte comme le lieu vraiment de l'indépendance. Et du coup, il y a forcément un passage très stéréotypé avec une relation parent-enfant très stéréotypée, avec des personnages très stéréotypés. On n'a pas choisi les meilleurs films, mais il faut reconnaître aussi que tous les films qui traitent de l'âge adulte sont aussi des films très stéréotypés, en fait.
Mais je crois que c'est une difficulté qu'on avait eue, en fait, en faisant... Enfin, c'était assez intéressant. On a déjà fait une émission sur l'enfance et après une sur l'adolescence, et au final on n'avait pas eu trop de mal à ces moments-là à rassembler diverses œuvres avec diverses œuvres originales et quand même qualitativement intéressantes. Et là au final, peut-être que l'âge adulte, c'est peut-être un peu l'âge ingrat au cinéma, c'est-à-dire que l'enfant et l'adolescence sont assez attirants comme objet d'étude et comme objet à filmer, etc. Et on dirait qu'à l'âge adulte il y a une espèce de déperdition d'intérêt, et au final c'est assez marrant parce que quand il y a des enfants ou des adolescents dans un film, les films en tant qu'objets ayant cet âge-là. C'est-à-dire que quand il y a des adolescents, par exemple, on filme vraiment des adolescents, alors que les adultes, ils sont énormément présents dans le cinéma, c'est peut-être le truc le plus courant, mais c'est rarement un film sur l'âge précisément. En général, ils sont utilisés en tant qu'acteurs, en tant que principe de scénario, mais il y a pas... Enfin, il y en a sûrement des films, mais c'est pas si évident que ça de trouver des films qui parlent vraiment de cet âge-là, et c'est assez marrant parce que en cherchant, par exemple, sur Google des listes de films consacrés aux adultes pour avoir des idées, au final, alors qu'on peut avoir énormément de résultats en cherchant sur l'adolescence et sur l'enfance, âge adulte, on va avoir que des résultats qui tombent un peu à côté, soit pour nous dire que les adultes payent trop cher au cinéma, soit pour des films plus ou moins pornographiques, etc. Tu sais pas trop comment Google a associé tes mots, mais ça donne ça. Et enfin, il y a quand même quelques listes sur des films consacrés à l'adulte, mais c'est généralement des films consacrés au passage à l'âge adulte. Et par exemple, on va avoir des films comme La Fureur de Vivre, alors que paradoxalement, nous, c'est un film qu'on avait plus relié à l'adolescence, quoi. Donc c'est peut-être un peu l'âge pas trop aimé au cinéma, avec éventuellement la vieillesse, mais ça, on verra ça la semaine prochaine.
Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que, on va dire, les thématiques de l'adulte, c'est-à-dire d'être dans une espèce de conformisme sociétal, puisque on va dire que dans l'enfance et dans l'adolescence, on a peut-être l'occasion de se rebeller et du coup se questionner sur soi, et alors que dans les films sur les adultes, on vit des histoires qui sont des histoires de couple ou des histoires de, on va dire, de travaux, quoi. C'est pas forcément des choses qui sont forcément reliées à soi, même si effectivement on peut ensuite faire de fil en aiguille une espèce de lien entre ce qui est présenté avec les personnages et le sujet du film, quoi. Enfin,
on va peut-être passer une petite musique pour détendre un peu tout ça. Du coup, la première musique, c'est une musique de Jacques Brel, il me semble, la valse à mille temps.
C'est ça.
Une musique qu'on a choisie parce que ça retrace un peu les âges de la vie. Ça commence par une valse à 3 temps, ça passe par une valse à 20 ans et ça finit par une valse à 100 ans. Et c'est merveilleux.
Au premier temps de la valse, toute seule, tu souris déjà. Au premier temps de la valse, je suis seul, mais je t'aperçois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. et Paris qui bat la mesure me murmure, murmure tout bas. Une valse à trois temps qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, frosse aux amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au deuxième temps de la valse, on est deux, tu es dans mes bras. Au deuxième temps de la valse, nous comptons tous les deux, une, deux, trois. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, nous fredonne, fredonne déjà. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'aie vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, frosse nos amants 333 fois le temps de bâtir un roman. Au troisième temps de la valse, nous valsons enfin tous les trois. Au troisième temps de la valse, il y a toi, il y a l'amour et à moi. Et Paris qui bat la mesure, Paris qui mesure notre émoi. Et Paris qui bat la mesure, laisse enfin éclater sa joie. Une valse à trois temps, qui s'offre encore le temps, qui s'offre encore le temps de s'offrir des détours du côté de l'amour, comme c'est charmant une valse à quatre temps. C'est beaucoup moins dansant, c'est beaucoup moins dansant, mais tout aussi charmant qu'une valse à trois temps, une valse à quatre temps, une valse à vingt ans. C'est beaucoup plus troublant, c'est beaucoup plus troublant, mais beaucoup plus charmant qu'une valse à trois temps, une valse à vingt ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, une valse à cent ans, à chaque carrefour dans Paris que l'amour rafraîchit au printemps. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, de patienter vingt ans pour que tu aies vingt ans et pour que j'ai vingt ans. Une valse à mille temps, une valse à mille temps, une valse à mille temps, frais seulement 333 fois le temps de bâtir un roman. La 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 la.
Et nous sommes de retour sur l'émission du MacGuffin où on va embrayer sur un petit débat sur refaire le foyer avec la saga American Pie et particulièrement le troisième. Agathe, il me semble que tu avais des choses à dire dessus.
Alors, je ne sais pas si j'ai des choses à dire dessus, mais oui, du coup, American Pie 3, on retrouve une espèce de bande qui est toujours présente, enfin qui a toujours été présente depuis le 1. Et là, en fait, c'est plus particulièrement le mariage de Jim qui sert un peu de personnage principal, enfin plus ou moins, de fil conducteur. Et du coup, il se marie avec Michelle. Et ce qui est assez intéressant au final avec American Pie, enfin en tout cas 3 en l'occurrence, c'est que ça aborde faussement tout ce qui est, par exemple, les angoisses, etc., qu'on peut avoir au moment où on va avoir ce genre de responsabilité. Parce que là, par exemple, il s'agit de, quand même de s'engager dans une relation à longue durée et arrêter, et patati et patata. Enfin bref, il y a vraiment l'histoire de mariage comme un sacrement, une relation à faire perdurer et tout ça. Donc il y a... Comment dire ? En fait, ça aborde un peu ces angoisses-là, mais tout en les absorbant, peut-être à cause du côté très, justement, américain et... pas forcément puritain, parce que c'est pas exactement puritain du tout à American Pie 3, mais il y a quand même une espèce de forme de morale très forte.
Il y a une forme de grosse conformité, en fait, notamment dans le 3, c'est assez flagrant. Quoi. Oui, de conformisme, autant pour moi. Tu parlais notamment du personnage principal, du coup, qui est un peu là pour qui est un peu l'élément moteur de chaque épisode. Ce personnage, il est assez révélateur d'une forme de conformisme, du coup, parce que en fait c'est un personnage qui est un héros mais qui est pas particulièrement charismatique en fait, et qui est là qui est un personnage un peu lambda, quoi, qui est quelqu'un de très normal et qui est là juste pour faire coaguler autour de lui des gens qui ont des personnalités un peu plus excentriques, etc. Ouais. Et du coup, enfin, notamment le 3, c'est assez flagrant, c'est-à-dire que le passage à l'âge adulte, c'est le mariage, C'est tout simplement reproduire ce que les parents avaient déjà fait.
Oui, c'est ça, exactement.
Et du coup, moi, ça m'a hyper choqué. Enfin, ça m'a vraiment choqué. J'ai vu le film tout à l'heure. Qu'une des dernières phrases du film, ce soit. Parce que voilà, American Pie, c'est une saga qui traite quand même largement de la sexualité plus ou moins débridée chez les adolescents américains. Et du coup, à la fin, il y a un petit dialogue où le marié et la mariée se posent la question, on a une sexualité débridée, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal ? Et la morale du film, c'est oui, on est normal, et c'est tant mieux qu'on soit normal, et on a reproduit ce que nos parents avaient fait, etc.
Non, mais donc, c'est exactement ça, ouais.
Du coup, là, c'est vraiment reproduire le foyer, au sens où... Enfin, voilà, c'est intéressant. La semaine dernière, on a parlé de l'adolescence. On avait vu que l'adolescence au cinéma, c'était traité dans un sens aussi politique, quoi. C'était une rupture sociale, etc. Bah, oui, mais paradoxalement, l'âge adulte, c'est vraiment l'inverse, quoi.
Non, on voyait aussi que l'adolescence, c'était... Les adolescents, c'était aussi les reflets de leurs parents, au final, dans La Fureur de Vivre, avec les adolescents qui sont en perte de repères parce que leurs parents sont dysfonctionnels ou sont absents. Il y a quand même quelque chose qui tient du rapport avec les films adolescents, quoi. C'est juste une continuité, au final, et c'est pas si étonnant que American Pie dépeint finalement cette espèce de retour au conformisme qui vient avec le passage à l'âge adulte.
Mais disons que je pense pas qu'il le dépeigne d'une manière très dénonciatrice au final. Enfin, il y a vraiment un côté précepte. Par exemple, il y a Jim qui, pendant tout le film, attend la bénédiction des parents de sa fiancée. Le mariage ne doit pas être fait de n'importe quelle manière. C'est quand même... Enfin, la meuf, elle pense quand même qu'à sa robe pendant tout le début. Après, il y a une histoire de rose qui fane et c'est le drame parce qu'il n'y aura pas de fleurs comme un mariage normal. Après, il y a l'équipe de foot américain qui vient s'en mêler. Et là, on sent les valeurs sport et amour, etc., qui sont liées sur l'hôtel. Et en plus, c'est assez marrant ce que tu disais sur la phrase un peu de conclusion, parce qu'au final, Jim, c'est un peu le héros. Du coup, c'est celui qui, peut-être pas le personnage le plus charismatique, mais c'est un peu celui qui sert entre guillemets de référent. Et lui, sa relation avec Michelle, celle avec qui il va se marier, elle est un peu cette espèce de moralité qui parcourt tout American Pie, parce qu'au final, Michelle, c'est la seule fille qu'il a connue toute sa vie, aussi bien affectivement que sexuellement. Donc, disons qu'il a eu une seule relation, ça a toujours tout de suite été un peu la bonne fille, on va dire, enfin, la bonne personne. Et justement, dans le 4, parce qu'il y aura un American Pie 4, il se retrouve 10 ans après. Et là, c'est l'apothéose totale de, en fait, un peu ce que tu dis, Simon, enfin, Quack, c'est-à-dire cette rencontre entre l'adolescence et entre l'âge adulte. C'est-à-dire qu'il y a Jim qui est marié avec Michelle et qui commence un peu à s'ennuyer, notamment sexuellement parlant, et qui a quelques doutes. Et il retombe sur une jeune fille qu'il a gardée étant jeune. C'est-à-dire que lui, il l'a connue en étant adolescent et il l'a gardée. Elle était encore une enfant. Elle le revoit parce qu'il retourne à sa ville natale. Et en fait, cette fille qui est devenue une adolescente est en train... cherche la personne avec qui elle a envie de faire sa première fois, en gros, et elle décide que ce sera Jim, parce qu'elle l'aimait beaucoup quand il était son babysitter, et ça donne un truc un peu glauque, où bon, elle a envie de que ce soit avec lui, et lui, au final, il est un peu tenté, mais comme elle est un peu bourrée, etc., au final, il va faire un peu son bon américain, son bon papa, et en fait, une des dernières scènes du film... Il est un peu, il va la voir parce qu'il y a eu pas mal de déconvenues et il veut s'excuser auprès d'elle et il en profite quand même pour lui faire un peu sa leçon de morale de grand-papa et de grand-babysitter. Et en gros, ce qu'il lui dit, c'est « Ouais, c'est vrai, t'es beaucoup intéressé par le sexe, etc. Et ça a l'air de pas mal te travailler et tout, mais quand même, réfléchis-y bien et surtout trouve la bonne personne. » Et je sais pas comment dire, mais étant donné que c'est Jim qui dit ça, que c'est Jim qui a eu que Michelle, etc., et bah, la sexualité étant un peu, comment dire, une espèce d'image de cette espèce de révolte de l'adolescence qu'on approuve ou pas, enfin on s'en fiche au final de tout ça, et lui il est là pour brider ça et un peu le remettre dans la bonne voie et de la moralité et du bon choix et patati et patata.
Ouais, de l'espèce de monogamie.
C'est ça.
Oui, je vois.
Et traditionnelle et pas trop aventureuse et protégée et
ouais, on reste avec la même personne depuis l'adolescence, quoi.
C'est ça.
La relation parfaite, bon bref. Je pense qu'on peut passer à un autre petit morceau. Cette fois-ci, c'est quel morceau qui va passer ?
C'est Dancing Queen.
Dancing Attention. Queen de ABBA, qu'on peut entendre d'ailleurs dans le film Muriel, dont il fait partie de notre corpus, mais qui pourrait aussi être dans cette thématique. On va écouter ça.
Ooh,
Le MacGuffin, de retour pour l'émission sur le cycle sur l'âge adulte. On va enchaîner avec, Justine Trier.
Ouais, bah en fait, on parlait de conformisme tout à l'heure. Ce qui est intéressant avec les films de Justine Trier, c'est que du coup, ça prend un peu le contrepoint. C'est qu'elle met toujours, enfin en tout cas, les deux longs métrages qu'elle a fait, dont il est question ici, La bataille de Solferino et Victoria, ça met en scène des femmes, qui ont une vie familiale un peu désastreuse, parce que cette vie-là est en confrontation directe avec leur travail, etc. Et du coup, en fait, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment exactement l'inverse de ce qu'on disait avec American Pie, quoi.
Oui, bien sûr. Au final, Victoria, c'est quand même l'histoire d'une fille qui, du coup, dans cette espèce de modèle de famille, se retrouve pas du tout, puisque au final c'est quand même une espèce de femme un peu indépendante qui doit gérer ses enfants mais le fait pas, dialogue avec son ex-mari, mais c'est pour dans un espèce d'échange un peu glauque, puisque son ex-mari écrit tout un livre où il assassine finalement sa femme, quoi, où il dit que sa femme c'est quand même vraiment une horreur, quoi, et déballe en plus des faits privés, quoi. Il y a quand même quelque chose d'assez terrible qui se trame dans la vie de cette femme, qui n'est pas non plus au demeurant très sympathique. C'est quand même une femme qui n'hésite pas à dire des méchancetés à des témoins et ce genre de choses. C'est comme quelqu'un qui veut essayer à tout prix d'arriver à ses fins, et qui est finalement dans son indépendance quand même assez cruelle. Du coup, ça rejoint une espèce de critique du salariat, du travail, qu'on peut retrouver aussi dans Le sang séché, dont
Oui, en fait, c'est vraiment une femme qui est complètement absorbée par son travail. Et d'ailleurs, c'est ce que tu disais, il me semble, tout à l'heure quand on en parlait, ce qui est intéressant avec ce film-là, c'est que les enfants, en fait, sont dans le film Victoria, les enfants sont présents, les enfants sont là, mais comme pur prétexte à montrer qu'elle n'a pas de vie familiale, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont prétexte à l'arrivée du babysitter qui va créer le couple de l'histoire, etc. Mais en fait, les enfants n'ont pas vraiment d'identité précise, en fait. Ils sont juste une négation. Les enfants sont vraiment une négation dans ce film-là. C'est une femme qui est complètement absorbée dans ce travail. Et voilà, c'est une femme qui ressemble aussi un peu à je ne me souviens plus de son prénom, mais l'héroïne de Tony Erdmann qui est sortie cet été, qui est elle aussi absorbée dans son travail.
Oui, c'est d'ailleurs tout le sujet du film, c'est-à-dire de faire sortir la fille de son espèce de sérieux du travail qui lui a été induit dans une espèce de... dépersonnalisation où elle finit par accepter de sortir avec un espèce de gros goujat, quoi, qui se comporte avec elle un peu comme une ordure, et avec les autres femmes finalement comme une ordure. On peut le voir dans la scène de la boîte, qui est assez signifiante sur ce sujet, avec un père qui essaie comme un clown triste, de la faire rire, mais qui est quand même assez pitoyable aussi. Enfin, je trouve que le personnage du père est assez empathique, puisqu'il et c'est tellement de faire rire qu'il finit par faire pleurer, quoi.
Ouais, et puis c'est aussi ce qu'il essaye de faire, quoi. C'est-à-dire qu'il essaye de mettre, peut-être inconsciemment et consciemment, il essaye de mettre à mal la vie professionnelle de sa fille pour qu'elle retrouve une vie familiale. Et là encore, on voit qu'il y a... En fait, dans les films dont on traite, il y a un peu toujours une dichotomie entre vie familiale et vie professionnelle, quoi.
Vie familiale, c'est pas tant le sujet de ça, de Tony Erdmann, mais plus être un être humain. C'est ce qu'elle lui dit à un moment. Il lui dit « Est-ce que tu es vraiment un être humain ?» C'est essayer de retrouver une humanité par le rire, par les émotions, puisque c'est tellement un bloc de glace, cette femme, qu'elle peut dialoguer avec personne. Elle se conforme dans une espèce de personnalité qu'elle s'est créée. D'ailleurs, du coup, c'est quand même un peu l'opposition qu'il y a avec La bataille de Solferino, où la femme, même si elle est dans un espèce de travail, c'est une espèce de reporter qui va interviewer les personnes pendant les élections présidentielles, se retrouve quand même à gérer des situations de crise où elle est obligée de crier envers son mari violent, son ex-mari violent. Du coup, on retrouve un peu le traitement de l'enfance, qui est aussi un peu éclipsé, mais beaucoup moins que dans Victoria, puisqu'on voit clairement les enfants en train d'être assez mal dans cette situation, puisque tout le sujet, c'est des adultes qui se chamaillent pour avoir des enfants, alors que les enfants, on ne les traite pas vraiment, quoi. C'est vraiment les enfants vus des adultes, c'est-à-dire, oui, c'est des enfants, mais voilà, c'est juste des enfants, quoi.
Ouais, et je rebondis juste sur ce que tu as abordé un tout petit peu, la bataille de Solferino et cet aspect à la foule. Elle va travailler en fait dans la manifestation qui juste un peu avant l'élection de François Hollande en 2007. Et je trouve ça intéressant, en fait, que dans ces films qui traitent de l'âge adulte, il y a un rapport assez intéressant à la ville, à la foule. C'est-à-dire que le travail est souvent assimilé à l'urbanisation. C'est par exemple d'Anthony Erdmann, elle travaille à Bucarest. Alors, c'est assez intéressant la manière dont c'est traité d'Anthony Erdmann, parce qu'en même temps, elle est au centre-ville de Bucarest, et en même temps, elle est à Bucarest. Et Bucarest, c'est pas n'importe quelle ville, c'est une ville un peu frontière de l'Europe, enfin qui est quand même un peu voilà, de notre imaginaire d'européen occidental, c'est quand même une ville un peu en banlieue du centre européen. Donc c'est assez intéressant de la manière dont c'est joué. Et puis d'ailleurs, elle le vit assez mal. Et du coup, en fait, dans ces films qui traitent de l'âge adulte, il y a toujours aussi ce désir un peu adolescent aussi, mais d'être au centre du milieu urbain, parce que le milieu professionnel, c'est aussi le centre du milieu urbain, quoi.
Ouais, mais pas tant. Je pense pas que le sujet tant de ces films-là soit une espèce de reconquête du milieu urbain, mais plutôt l'accommodation avec le milieu urbain, c'est-à-dire de faire du milieu urbain un quotidien, puisqu'on est obligé de s'y confronter. Il n'y a pas vraiment une réappropriation du milieu urbain qu'il peut avoir dans des films un peu plus adolescents, où des jeunes peuvent détruire des choses dans la rue, ou investir des lieux comme dans Le Froid, dont on parlait la semaine dernière. C'est vraiment juste l'évolution des personnages dans les lieux qui finissent par s'y conformer, autant qu'ils s'y conforment à leurs travaux, à leur vie familiale. Il y a quand même quelque chose d'assez aliénant, en fait, dans ces grandes villes.
Et qui est très développé aussi dans Le Sang Séché, dont on n'a pas parlé, qui fait partie du corpus, qui est sûrement un des films les plus intéressants de notre corpus, en plus.
Oui, Le Sang Séché, qui parle d'un homme qui, du coup, je l'ai expliqué précédemment, c'est un homme qui essaie de se suicider pour garder son travail, qui finit par devenir une star. Et du coup, on voit que cet homme envahit l'espace urbain. On le voit en photo, grand format. Et il y a quand même la question de l'image qui est primordiale dans ce film-là, où des célébrités peuvent être photographiées à leur insu par un paparazzi. Paparazzi qui est un des personnages centraux du film, par ailleurs. Une espèce de question de l'image qu'on retrouve un peu plus dans le contemporain, et qu'on retrouve aussi d'ailleurs dans les films comme Victoria, où tout ça est une question d'image. On va dire qu'elle perd son emploi parce qu'elle a malencontreusement parlé à une témoin alors qu'elle ne pouvait pas lui parler. La question de l'image de l'adulte dont on doit garder son image d'adulte. Mais quand cette image d'adulte finit par être détruite, c'est-à-dire dans Victoria ou même dans Le Sang Séché, où il y a une histoire d'adultère qui finit par détruire la personnalité du bon citoyen qui avait été construit par l'acte de tentative de suicide, il y a quand même quelque chose de l'image qui est finalement brisée par une espèce de révélation publique.
Et je rebondis sur ce que tu disais par rapport à l'image d'adulte. Ce que je trouve intéressant, en fait, à comparer nos films, les films qui traitent de l'âge adulte et les films qui traitent de la jeunesse, l'adolescence, etc., c'est qu'en fait, on a l'impression que l'adulte peut briser son image à tout moment, et que le geste, l'action chez la personne adulte a beaucoup plus d'importance que chez une personne plus jeune. Il y a une scène qui est vraiment très signifiante dans le Victoria de Justine Triet. Et d'ailleurs, enfin, c'est une scène que je trouve assez magnifique. Je pense que c'est une des plus belles scènes du film. C'est au tout début, en fait. Je sais plus, il y a une fête, je sais plus si c'est un mariage ou je sais plus ce que c'est. Bref, en gros, ils sont dans une fête, et là, les gens commencent à être un peu sous, etc. Et là, il y a une tentative de meurtre. Au moins, il y a quelqu'un qui se fait poignarder, quoi. Et du coup, en fait, ce qui est vachement fort avec cette scène, c'est que cette tentative nous est montré dans un seul raccord de caméra, juste par le biais du montage, alors que la musique et l'atmosphère autour continuent d'être une atmosphère festive. Sauf qu'en fait, ça apporte un contrepoint qui est terrible. Enfin, moi, je me souviens, dans mon siège, j'avais été terrifié, quoi. C'est un acte anodin, mais en même temps qui a une importance capitale, qui va déterminer tout le film, parce que c'est un acte adulte, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on était dans une ambiance de jeunesse, la fête, etc. Et là, tout d'un coup, il y a un acte adulte qui arrive, et cet acte, il va être répréhensible parce qu'il est plus pardonnable, parce que désormais on n'est plus des jeunes, mais on est des adultes.
Oui, il y a une espèce de disgrâce qui est amenée par des actes qui peuvent être un peu inconscients ou destructeurs, qui visiblement est beaucoup plus fort quand on est adulte. Mais je pense que c'est aussi par rapport à une espèce de prise de responsabilité, d'intégration dans la société, qui fait que quand tu vas à l'encontre de cette société, tu finis par en être exclu. Finalement, c'est ce qui arrive au personnage à la fin de, du sang séché, il finit par se rebeller contre le paparazzi, il finit par presque vouloir le tuer, et donc du coup, ça fausse l'image, de, l'image du bon, enfin comme je l'ai dit, ça fausse l'image du bon citoyen qu'on lui avait forgé, et finit finalement par retourner à la case départ, à devenir chômeur, etc., et accomplir son ultime acte de suicide qui finit par être mortel pour lui, quoi.
Et c'est tout le dilemme de la femme dans, dans Tony Erdmann aussi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle comprend bien qu'elle est dans un système un peu corrompu, c'est pas le mot, mais qui a quand même des limites. Il y a un plan qui est assez fort aussi. C'est, il semble qu'elle est, elle est en haut d'une tour, du coup, c'est. Enfin, une tour, bon, elle est dans un immeuble, on va dire, elle est dans son bureau. Elle regarde par la fenêtre et en bas de sa fenêtre, il y a des petits enfants qui jouent. Et du coup, là, il y a vraiment la confrontation quoi, entre elle, qui participe et qui fait vivre aussi le milieu capitaliste avec les inégalités que ça encourt, etc. Et elle, bah, tout le film, ça va être ce dilemme-là. Quoi. Est-ce que j'accepte moralement ce que je fais? Est-ce que je ne l'accepte pas? Et le père va essayer de balancer tout ça. Enfin, là, c'est aussi une question qui est centrale dans ce film-là. Alors, je ne sais pas si c'est central d'American Pie.
En fait, je trouve ça assez intéressant parce qu'au final, même avec American Pie, on peut remarquer des trucs plus ou moins intéressants. Enfin, ça rejoint finalement ce que vous avez dit... que l'âge adulte, c'est plus totalement l'âge de l'adolescence où on fout en l'air le système, mais plutôt où on s'en acclimate parce que sinon on en est rejeté. Et finalement, dans American Pie, il y a un peu ça, je dirais. À partir du 3, tout le monde commence à se tourner. Le 3, je crois, commence par Jim et Michelle qui ont fini leurs années d'études. Et donc ça signe vraiment la fin du premier, du deuxième volet qui est vraiment consacré à leur vie sur les campus et patati et patata. Et... qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et du coup, c'est vraiment... on amorce ce passage vers l'âge adulte où tout le monde va trouver un travail, où on commence à penser à se marier, à avoir des enfants. Et il y a quand même un... Enfin, je trouve que ça rejoint cette espèce d'idée d'absorption d'une énergie qui est dégagée à profusion par l'adolescence, et notamment au travers du personnage insupportable de Stifler, je crois qu'on l'appelle comme ça.
Oui, on l'appelle comme ça.
Et Stifler, c'est vraiment le mec qui, lui, est resté... fidèle à lui-même depuis le 1, dans le 2, dans le 3, dans le 4. Enfin, c'est vraiment une catastrophe. Et dans le 4, ils ont tous des travails. Stifler en a un, mais il se fait un peu exploiter.
Il est prof de sport déjà dans le 3, je crois.
Dans le 3, il est prof de sport. Mais alors dans le 4, c'est 10 ans après. Il n'est plus du tout prof de sport, quoi que ce soit. En fait, il travaille dans une espèce de boîte où, en fait, il fait de la paperasse, quoi. Mais il se fait vraiment exploiter par son patron. Mais Stifler est assez intéressant parce qu'au final, c'est un personnage qui est vraiment. Qui peut être soit très marrant, soit très saoulant, parce qu'il est vraiment resté à une espèce de stade anal de sa sexualité, où il faut absolument qu'il baisse toutes les filles qu'il croise, il est toujours en train de sortir tout un... Enfin, il a un vocabulaire hyper limité par moment, et c'est toujours un peu dans la matière fécale, et patati et patata. Du coup, on peut juste le voir comme un personnage insupportable, on peut aussi le voir comme un espèce... Après, c'est une image qui en est plaisante ou pas, et on approuve ou pas, et on trouve que c'est réaliste ou pas, mais il est un peu à l'image de cette espèce de débordement qui exerçait à l'adolescence, et finalement, s'il est un peu insupportable, c'est aussi parce que c'est le seul qui fout vraiment le bordel là-dedans. Tout le monde a trouvé son travail, tout le monde a sa femme, tout le monde a ses enfants, mais il y a quand même Stifler qui, lui, est toujours dans cette espèce d'idée d'avoir une sexualité complètement débridée, et en fait, c'est le seul, alors que, par exemple, des gens comme Jim, bah, à un moment, a un discours totalement... nul et enfin vraiment naze. Il y a un de ses amis qui avoue qu'en fait il s'embête profondément dans sa vie et que sa vie professionnelle n'est pas très brillante et qu'il ne sait pas ce qu'il pensait faire. Et Jim lui dit quelque chose comme mais tu sais c'est pas grave, on est adulte, donc en fait personne s'éclate au boulot, mais faut bien quoi. Et c'est vraiment finalement, enfin il y a même pas de remise en question de ça. Et il y a quand même Stifler, lui, c'est le seul qui, avec sa grossièreté, etc., va un peu envoyer promener son patron, son job, etc. Et du coup, là, il arrive vraiment à un stade où c'est un électron libre dans le film. C'est-à-dire qu'il n'a plus de travail, il n'a toujours pas de femme, il ne va sûrement pas avoir d'enfant. Et c'est assez intéressant. Et en fait, au final, même ce personnage-là, American Pie, arrive à le réabsorber et à le réinjecter dans la bonne marge de la société parce qu'au final, à la fin, il y a une espèce de fête. Et Stifler, je crois... Enfin, il l'organise et il assure pas mal. Et il y a un couple gay, plus ou moins ami avec lui, qui lui dit qu'il a fait un super job pour cette fête-là. Et est-ce qu'il voudrait pas, en gros, en faire son métier, devenir organisateur de fête et pourquoi pas organiser leur mariage à eux, en fait. Et je trouve ça intéressant parce que, du coup, finalement, Stifler, c'était le dernier personnage vraiment libre et électron libre. Et même lui, en fait, au final, tout le côté qui fait un peu son grain, qui fait un peu son côté insupportable, qui fait un peu qu'on peut pas le maîtriser, elle est réabsorbée dans une action, dans une activité professionnelle. Comme si tout le monde au final trouvera, en fait pour toute personne aussi débordante soit-elle, il y aura toujours une petite place, et il y aura toujours une place dans le système global qui est la vie de travail, la famille, tout ça. Du coup, c'est assez négatif en fait au final.
C'est très très négatif. Ouais.
Bon, je pense qu'on va devoir se quitter pour cette émission, ma foi, assez archaïque et assez courte aussi. Donc du coup, on va quand même finir sur une note plutôt positive, avec du Georges Brassens, ça fait toujours plaisir, La mauvaise éducation. On donne rendez-vous la semaine prochaine pour une émission avec, on espère, beaucoup plus de personnes, où on va traiter du dernier thème de notre cycle, la vieillesse. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde médit de moi, sauf les muets. Ça va de soi. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne en n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde me montre au doigt, sauf les manchots, ça va de soi. Quand je croise un voleur malchanceux, poursuivi par un cutéreux, je lance la patte et pourquoi le taire? Le cutéreux se retrouve par terre. Je ne fais pourtant de tort à personne en laissant courir les voleurs de pommes. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde se rue sur moi, sauf les cul-de-jattes. Ça va de soi. Pas besoin d'être Jérémie pour deviner le sort qui m'est promis. S'ils trouvent une corde à leur goût, ils me la passeront au cou. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant les chemins qui ne mènent pas à Rome. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.